Laurent, les sorties, on va commencer par Cuban Network, le film d'Olivier Sayas, début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami mettent en place un réseau d'espionnage. Leur mission, infiltrer les groupuscules anticastristes responsables d'attentats sur l'île. Alors voici un sujet assez passionnant, les exilés cubains en Floride qui mènent les attaques contre le pouvoir de Castro, et notamment les attentats, et la réponse du régime qui envoie régulièrement des espions à Miami pour infiltrer ces organisations. C'est le réseau GEP. L'histoire est très complexe. Assayas, en s'inspirant du livre « Les derniers soldats de la guerre froide » de Fernando Moraes, a dû simplifier et notamment ajuster la chronologie pour des raisons narratives. Résultat, une multiplication de personnages dont on ne comprend pas vraiment les enjeux. L'un disparaît, l'écran affiche 4 ans plus tôt, apparaît Garcia Bernal. On se perd aussi dans les actions, les motivations. Difficile de résumer cette histoire en 2 heures. Peut-être eût-il fallu, comme il l'avait fait d'ailleurs pour Carlos, Total Réussite, lui donner plus de temps au temps. À l'arrivée, on se demande ce qu'on a vu. Un film d'Assayas, pas vraiment. Un film d'action non plus. Plutôt un film hybride. Un peu déconcertant quand on aime justement le cinéma d'Assayas.
Oui, c'est ça. Et ça me coûte de le dire. Hein. Ça me coûte de le dire. Ça aurait pu être une formidable mini-série. Mais vraiment, je le dis en me tordant la bouche, quoi. Et en me rappelant Carlos, effectivement, qui était une très très belle mini-série d'Olivier Assayas où il avait tout maîtrisé, le temps, la narration, la complexité des personnages, tout ça était très bien. On retrouve pas ça dans Cuban Network, hélas, alors que le sujet est tout aussi passionnant. Donc on est comme ça dans une sorte de déception, il faut bien le dire, par rapport à ce film, avec peut-être un personnage qui est tellement, je trouve, intéressant, qui était celui de Penélope Cruz, qui est, on voit, qui est tout en retrait, on verrait l'histoire à travers elle, ce serait...
J'y crois pas, la pauvre cubaine.
Ben oui, mais c'est dommage, parce que vraiment, ça pourrait être un formidable regard. À part ça, évidemment, UACS continue à savoir faire du cinéma, mais ça, c'est pas une nouveauté.
Les traducteurs de Régis Roinsart, quelle histoire, ce truc. Isolés dans une luxueuse demeure, sans aucun contact possible avec l'extérieur, 9 traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les 10 premières pages du roman sont publiées sur Internet et qu'un pirate menace de dévoiler la suite, on ne lui verse pas une rançon. Si on ne lui verse pas une rançon colossale, une question devient obsédante. D'où vient la fuite?
Alors oui, les 10 petits nègres, plus Millennium, plus Cluedo, ça fait un film totalement artificiel et raté. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, ce serait vraiment le meilleur résumé qu'on peut faire. Avec des acteurs internationaux, il y a une sorte de casting à la Crime de l'Orient Express, pour rajouter un peu plus dans le côté, comme ça, Agatha Christie et Enco, avec un Lambert Wilson en tête, mais qui cabotine, mais les autres cabotinent aussi, parce qu'ils n'ont pas de rôle, parce qu'ils n'ont pas de personnage écrit, parce que tout ça est fait pour une sorte d'esbrouf de faux films inquiétants, angoissants, rien de tout ça n'arrive. Il est en permanence pendant toute la durée d'un film, il est question d'un livre formidable, d'un livre qui devrait être extraordinaire. Qu'est-ce qu'on aimerait le lire.
Un jour si blanc du réalisateur islandais, ils sont pas nombreux, hein, Ilmur Palmason. Dans une petite ville perdue d'Islande, un commissaire de police en congé après la mort de sa femme dans un accident de voiture soupçonne un homme du coin d'avoir eu une aventure avec elle. Sa recherche de la vérité tourne à l'obsession. Alors, il est beaucoup moins abscon et conceptuel que son précédent et premier film, c'est pas difficile, Winter Brothers. Celui-là est une puissante introspection dans la tête d'un homme obsédé par sa quête de vérité, mais calme et froid, dont on sent qu'il peut être d'une grande violence. Un personnage inquiétant, interprété par un acteur remarquable, Ingvar Eggert, Sigurðarson. Un homme qui, en quelque sorte, fait le point sur sa vie, mais sans une encombrante psychologie, je trouve. Il y a quelques afféteries de mise en scène, des plans plus longs que raison, mais un climat étonnant. Et le sentiment que j'ai eu, c'est d'assister à la naissance d'un grand metteur en scène.
Oui, je crois que vous avez raison. Il faut peut-être juste prévenir, il faut dépasser les 45 premières minutes, quoi, parce qu'elles sont effectivement pleines d'affaîtrie, comme vous le disiez, visuelle, esthétique. Il se passe beaucoup plus de choses ensuite, au sens, y compris même cinématographique, mais voilà, il faut dépasser ce premier moment du film que le réalisateur, on a l'impression qu'il se regarde filmer, la musique est insupportable, enfin voilà, donc il y a quelque chose qui se passe ensuite.
Oh non, c'est bon. Revenir de Jessica Palu, c'est de la ferme où Thomas est né, c'est sa famille, son frère qui ne reviendra plus, sa mère qui est en train de l'imiter et son père avec qui rien n'a jamais été possible. Il retrouve tout ce qu'il a fui il y a 10 ans, mais aujourd'hui il y a Alex, son neveu de 6 ans, et Mona, sa mère incandescente. C'est avec un sacré acteur, Neil Schneider, qui était donc à l'affiche de Sympathie pour le Diable.
Oui, alors c'est un drame paysan, hein, où tout est donné d'avance Provence, l'été, la chaleur de la Drôme qui écrase tout, la rencontre amoureuse différée, mais tellement, terriblement sensuelle au moment où elle arrive avec une référence à un duel de amoureux dans la boue, mais ça, Jacques Doyon l'avait fait beaucoup mieux, un lourd secret familial, bien entendu, on est chez les paysans, le père taiseux, évidemment, mais tellement profondément humain, finalement, la mère au fond de son lit en phase terminale, enfin, bref, il y a quand même ça, une série de choses qui émanent certainement du roman de Joncourt dont est tiré le film, qui le plombe vraiment, qui en font que les choses sont ténues, ne se passent pas, reste, vous le disiez, un casting, on peut citer aussi Adèle Exarchopoulos et Patrick Dasunsao, bref, pour ça, pour le casting, ce premier film Revenir vaut le coup.
Un film américain qui s'appelle La Voix de la Justice de Destin Daniel Cretton. À travers une histoire vraie, celle du combat d'un avocat pour défendre un homme condamné à mort et à tort, un film pour dénoncer les défaillances de la justice américaine, en l'occurrence en Alabama, l'affaire Walter McMillian, condamné à mort en 87 pour le meurtre d'une jeune fille de 18 ans et que Brian Stevenson, son avocat, va défendre pendant des années. Certes, on a vu et revu ce type d'histoire au cinéma, notamment dans les films américains, sauf que l'avocat qui défend McMillian est lui aussi noir et qu'il aurait pu suivre le même parcours, venant tous les deux d'un background assez similaire. Et du coup, le film insiste plus sur les discriminations raciales aux États-Unis et d'un système qui condamne arbitrairement les hommes afro-américains. Le décryptage d'une erreur judiciaire en immersion, classique, sobre, mais tenu par deux très grands acteurs, Michael B. Jordan et Jamie Foxx. Vous l'avez pas vu, Laurent, heureusement, vous pouvez pas le critiquer.
Bon, très bien.
Waves de Trey Edward Schultz, le parcours des membres d'une famille afro-américaine menée par un patriarche protecteur mais très exigeant sur les eaux troubles du malheur et du deuil.
Mais oui, alors les couleurs sont criardes, les musiques assourdissantes, la caméra virevoltante et anamorphosé. Il y a une débauche d'échange de SMS à l'écran, ce qui, moi, m'insupporte absolument. Et puis, tout ça finit avec la fin du film, avec une sorte de prêcha moralisateur sur la famille, avec en plus un puritanisme surprenant. On a vraiment l'impression extrêmement désagréable de se faire manipuler par un mélo moralisant.
Voilà, c'était les sorties de la semaine, et celle qui domine, bien sûr, c'est Gilles Caron. L'histoire d'un regard pour lequel vous êtes venus tous les deux, Patrick Chauvel et Édouard Elias. D'ailleurs, pour cela, on va vous offrir des cadeaux.
Oui, trois cadeaux au total, à chaque fois un exemplaire pour vous deux. D'abord, Nougaret de Pardon, c'est une exposition et un petit bouquin au point seuil qui s'appelle Dégager l'écoute comme l'expo. C'est 70 photos et un texte courant pour aller de San Clemente à la France et de ses habitants d'aujourd'hui, en passant par le Chili. C'est le résumé d'une très belle carrière à deux, où il y a aussi évidemment du son et de la photo. Et puis, c'est au seuil, je l'ai déjà dit, un documentaire magnifique qui s'appelle La Cité de la Muette, c'est de Jean-Patrick Lebel, c'est l'histoire du camp de Drancy. Et il y a aussi un deuxième DVD dans ce coffret où il y a un entretien avec une rescapée qui s'appelle Paulette Sarcé, ça dure 2h45 et c'est absolument extraordinaire. Il faut voir ces témoignages, il faut voir ce documentaire sur le camp de Drancy. Et puis on parlait beaucoup évidemment du Vietnam et de la guerre et de tout ce que vous avez vécu. Allez, un peu de fiction, mais est-ce de la fiction? Voyage au bout de l'enfer de Monsieur Cimino avec un certain Robert De Niro dans le rôle principal, et ça c'est chez Studio Canal. Je n'ai pas dit que La Cité de la Muette c'était ses ciné-archives. Voilà, c'est pour vous messieurs, trois cadeaux.